Bernard Querini, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc l'affaire Meyerling chez Rivage, l'un des 5 romans finalistes du Grand Prix Artelire 2018. Et vous êtes arrivé, vous avez eu des problèmes dans votre propre immeuble, Bernard Querini.
Il n'y a pas besoin que moi-même j'en ai eu, il suffit de tendre un petit peu l'oreille. Et si vous écoutez des gens qui vous parlent de leur copropriété et de leurs voisins, vous avez tout de suite une mine d'or dans les mains pour écrire un roman.
Mais ça ne part d'aucune expérience personnelle, vous n'avez pas vous-même un propre vécu.
Ça part de l'expérience personnelle de beaucoup de gens, peut-être même la vôtre.
Vous êtes quand même assez facétieux parce que dès le titre, l'affaire Meyerling, là, vous brouillez un peu les pistes. Évidemment, on pense à toute autre chose.
Oui, j'ai retenu le mot pour les qualités euphoniques qui sont les siennes, sans penser que je le conserverai une fois que le roman sera terminé. Et puis en fin de compte, je me suis dit que Meyerling, ça sonnait vraiment bien, je m'y étais habitué et je l'ai conservé. Et puis je me suis dit aussi que j'allais effectivement brouiller les pistes et tromper de nombreux lecteurs qui achèteraient probablement le livre en pensant qu'il s'agirait d'une histoire sur le fameux Meyerling, alors que ça n'a rien à voir.
Et d'avoir affaire à un grand roman historique,
c'est
évidemment
ça.
On en est très loin.
Une grande tragédie romantique, encore que c'est tragique et romantique d'une certaine façon.
Évidemment, ce nom Meyerling aussi, ça rejoint ce que l'on trouve d'emblée dans le livre, une satire des pratiques des agences immobilières, de leurs brochures, de tout leur langage publicitaire, en particulier de ces noms de résidences et d'immeubles, enfin voilà, où il faut vendre d'emblée du rêve, évidemment, et tous les moyens sont bons.
Oui, c'est ça qui est amusant, c'est de regarder les superlatifs. J'aime beaucoup regarder, par exemple, à l'aventure des agences immobilières, les publicités pour les programmes en cours de construction ou pour les projets, et vous verrez, c'est un genre extrêmement codé, avec toujours le même genre de personnages qui se promènent dans de beaux immeubles, qui ne ressemblent évidemment pas du tout à ce qu'ils seront en réalité. Et je trouve ça assez fascinant. C'est intéressant d'un point de vue commercial. Et puis surtout, ça donne envie de s'en moquer. Parce que quand vous voyez la réalité de ce qu'ils construisent, avec des immeubles mal conçus, mal insonorisés, qui enlaidissent le paysage, vous vous dites qu'il y a quand même loin entre la brochure publicitaire et la réalité.
Alors ensuite, on passe à la deuxième phase, qui est celle du chantier. Là, on va détruire. Il y avait cette magnifique, ce bel immeuble, une espèce de petit château comme ça, niché au cœur de votre ville imaginaire, Rouvière. Mais en même temps qui en rappelle beaucoup d'autres, pour construire cette résidence Meyerling. Et c'est toujours un mystère, un chantier un peu, quand on voit ça de l'extérieur.
Quand on n'y connaît pas grand-chose, on se demande un peu ce qui se passe. En effet, vous voyez des gens et des engins qui vont et viennent. Vous vous demandez quand tout ça sera terminé. Ce qui est surprenant, c'est que ça va extrêmement vite. Vous avez l'impression qu'ils sont capables de vous faire sortir un immeuble de terre en un rien de temps. La plupart du temps, moi, je préfère voir un chantier devant chez moi plutôt qu'un immeuble terminé, parce que je trouve que généralement, la confusion et l'espèce de chaos ambiant du chantier sont beaucoup plus amusants et surtout beaucoup plus jolis à regarder que l'immeuble terminé qui, la plupart du temps, est quand même assez laid.
Même s'il peut parfois aussi, sur les chantiers, se passer des choses assez dramatiques.
Il s'en passe, là, des choses insoupçonnées et insoupçonnables. J'imagine effectivement que si on creusait sous les fondations de certains immeubles, on trouverait certains ouvriers qui sont conservés dans le béton et il vaudrait peut-être mieux pas faire des excavations dans votre cave. On ne sait jamais ce qui a pu se passer au moment de la construction de votre immeuble.
Le béton. Alors là, quelle malédiction. Et ça, on sent que vous n'avez pas une grande sympathie pour le béton quand
non,
on vous lit.
Non, c'est vrai. C'est un peu un roman contre la bétonisation, ou sur ou contre, comme on voudra, la bétonisation du monde et l'espèce de tendance irrépressible qu'il y a dans les villes. Partout où vous avez un morceau de verdure ou un petit coin qui était préservé du malheur ambiant, a y coulé avec fureur des tonnes et des tonnes de béton pour y construire des immeubles en béton. On ne construit plus d'immeubles en briques, en autre chose. Je ne sais pas pourquoi. On ne construit plus que des choses en béton. On dirait qu'on a une espèce de besoin de béton comme une forme de toxicomanie en réalité. Alors que pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est généralement assez laid. Alors je suppose qu'il y a probablement des qualités économiques et des qualités de solidité. Mais enfin, on fait quand même, à mon avis, bon marché de la composante esthétique des choses. Et il ne faut pas s'étonner après si, vivant dans un environnement urbain globalement très laid, ça rejaillit sur notre humeur et que nous avons tendance à être quand même plus malheureux que si nous vivions dans de beaux endroits.
Le béton à l'extérieur et désormais à l'intérieur.
Oui, c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué si vous regardez les émissions de décoration. C'est hallucinant, ils font tout en béton maintenant. Ils font des meubles en béton, ils font des trucs en béton ciré, comme si ça ne leur suffisait pas d'en avoir à l'extérieur. Donc c'est déjà laid dehors, mais c'est encore plus laid dedans. Et je me dis, s'il y a du béton dehors et du béton dedans, où va-t-on pour se réfugier? Et il n'y a plus d'issue.
Alors, il y a une dimension documentaire aussi dans votre livre. On se dit, oh, il a vraiment, il a travaillé son sujet, hein, Bernard Querini. Et en particulier, vous nous rappeler que le béton, c'est d'abord du sable et avec des situations ubuesques comme celle de Dubaï, enfin de, ou des Émirats.
Ouais, c'est un phénomène qui m'a sidéré quand j'ai découvert ça. C'est qu'effectivement, le béton, c'est du sable et il y a donc une sorte de trafic mondial de sable avec des pays qui manquent de sable parce qu'ils ont utilisé tout leur sable pour leur béton, donc ils sont obligés d'en importer. Et on trafique le béton comme on trafique la drogue. Alors ce qui est étonnant, c'est que tous les sables apparemment ne se valent pas. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça apparemment c'est vrai. Et on ne peut pas construire, fabriquer du béton avec le sable du désert. Ce qui fait que ces pays-là, Dubaï et autres, qui regorgent pourtant de sable à n'en plus finir, sont obligés d'importer du sable marin, du sable venant de la mer. Moyennant quoi, sur les plages, on détruit les plages pour construire des immeubles, immeubles qu'on veut faire devant les plages pour avoir une vue sur la plage. Et quand l'immeuble est terminé, il n'y a plus de plage. Allez comprendre.
Mais alors vous, qui êtes un spécialiste, un amateur justement de l'absurde, de la satire, là vous vous dites, mais le réel, la réalité a bien plus de talent que moi finalement.
Ah bah ça oui, c'est malheureusement, on le constate quasiment tous les jours, la plupart du temps, les romanciers fantastiques et les écrivains de l'absurde sont enfoncés et battus à plate couture par les choses qui nous arrivent au quotidien.
Bon, bah une fois le chantier terminé, autre fléau, les malfaçons. Et là, bon, dans la résidence Meyerling, quand même, cette résidence en collectionne une belle série.
Ouais, j'ai voulu en faire, vous savez, il y a une phrase dans je ne sais plus quel film, je crois que c'est une réplique d'Audiard, voilà, je connais des cons, mais vous êtes une synthèse, le Meyerling c'est un peu une synthèse si vous voulez, j'y ai vraiment condensé tout ce que l'on pouvait trouver de pire dans les malfaçons immobilières et puis aussi tous les problèmes que génère la vie en copropriété, notamment les conflits de voisinage, notamment le bruit, ce fléau de la vie en ville, et j'ai essayé de porter tout ça à la puissance 1000 en y ajoutant pour faire bonne mesure un certain nombre de phénomènes paranormaux, de telle sorte que le tableau soit aussi complet que possible et que la vie des habitants soit l'enfer le plus complet possible.
Alors évidemment, c'est aussi une farce féroce et une satire sur la nature humaine.
Oui, ce qui est amusant, c'est que en général, dans ces copropriétés, voilà, on ne se connaît pas vraiment, on se rencontre dans les couloirs, mais on n'a pas de lien avec ceux qui pourtant vivent littéralement sur nous ou à côté de nous, mais à quelques mètres. On a l'impression qu'on vit dans des appartements différents, mais la vérité, c'est qu'on vit dans la même boîte, dans la même maison. Et l'immeuble va rendre la vie de ses habitants tellement impossible qu'ils vont finir par tisser, malgré eux, les liens communautaires qui, sans cela, n'auraient pas existé. Et ils vont, du coup, c'est tout le cœur de l'intrigue, c'est ce dont je suis parti, ils vont se liguer pour essayer de faire la peau de leur immeuble, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'immobilier. Des habitants, c'est la première scène, si vous voulez, qui m'est venu à l'esprit, des habitants qui méthodiquement, avec sang-froid et avec un certain enthousiasme, décident de mettre tous les moyens qui sont en leur possession pour ravager leur immeuble et le réduire en miettes. Et ils ne s'arrêteront que quand l'immeuble sera définitivement par terre.
Le livre est né de cette scène.
Le livre est né de cette espèce de, voilà, de fantasme. C'est peut-être que d'autres le partagent, mais quand je me promène dans une ville et que je vois autour de moi cette quantité affolante d'immeubles qui nous bouchent le paysage, je me dis, mais comment se fait-il qu'à aucun moment on ait l'envie collectivement de prendre un marteau, un bulldozer, chacun ce qui lui tombe sous la main et puis d'aller tout casser? Peut-être que je déraisonne et que ce sont des coups de folie passagers, irrationnels, mais à titre personnel, je vous avoue que ça me traverse quand même assez souvent l'esprit.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur la dimension fantastique du roman, avec l'influence maléfique de cet immeuble, cette résidence Meyerling, sur ses habitants. Parlez-nous de cette bonne Madame Camille.
Ah oui, c'est une veuve qui est très propre sur elle, très pieuse, une dame vraiment extrêmement honorable, qui décide pour ses vieux jours d'acheter un 3 ou 4 pièces dans ce bel immeuble tout neuf, en se disant qu'elle y sera bien. Et puis, une fois qu'elle y est installée, elle commence à partir en vrille, un peu comme tous les habitants de cet immeuble. Et évidemment, elle va devenir le contraire de ce qu'elle était au moment de s'y installer. Elle était pieuse, elle va devenir nymphomane et elle va commencer à courir le guidou un petit peu partout dans Rouvière, au grand scandale de ses voisins. Elle qui était si honorable va acquérir une réputation de coureuse absolument hallucinante. D'une certaine manière, le roman est un peu une variation contemporaine sur le thème de la maison hantée, ce vieux thème du récit fantastique. Traditionnellement, quand on pense maison hantée, on pense à un vieux château habité par une famille d'aristocrates fin de race, ou bien un grand manoir, enfin quelque chose d'un petit peu gothique. Et je me suis dit, ce serait amusant d'actualiser cette vieille tradition à l'ère de l'habitat urbain. Et au lieu d'avoir un château hanté ou une longère hantée dans une campagne ou une lande au fin fond de l'Angleterre, d'avoir un immeuble hanté, mais vraiment vraiment au cœur de chez nous, en plein milieu de l'une de nos villes. C'était un peu l'actualisation à laquelle je voulais essayer de me livrer.
Alors ici, ce qui est vraiment, vous poussez là avec un art absolument maîtrisé, ce balancement permanent entre la terreur, cet immeuble maléfique où il va se passer des choses de plus en plus, enfin, si on les prend au premier degré, vraiment terrifiantes, et de l'autre côté, évidemment, l'humour que vous ne perdez jamais de vue, le burlesque, le cocasse. Comment on reste sur la crête comme ça?
Bon, ça se fait naturellement. C'est vrai que je voulais tenir les deux côtés de la corde. Le sujet est grave en réalité. Il y va quand même de notre santé mentale. L'endroit où on vit, je le répète, c'est une constatation toute banale, mais chacun peut s'en rendre compte facilement, a une influence absolument décisive sur la qualité de notre humeur. Et je ne crois pas qu'il soit possible d'être complètement heureux dans un endroit laid. C'est pour ça que nous avons tous tendance à aller nous réfugier à la campagne ou à la plage dès que nous en avons la possibilité. Donc c'est vraiment une question grave et si vous y réfléchissez un peu, la bétonisation du monde fait qu'on est en train de démolir le cadre dans lequel nous vivons. Donc ça part quand même assez mal, mais c'est pas parce que le sujet est grave et qu'on a envie de pendre les architectes avec les tripes des promoteurs qu'on n'est pas obligé de dire les choses avec légèreté et de mettre un petit peu d'humour dans tout ça. Je pense que le message passe d'autant mieux en réalité.
Les architectes, page 119, c'est vous qui venez de lâcher le mot. Des architectes talentueux peut-être sauraient atténuer le mal. Or, au contraire, ils semblent faire tout ce qu'ils peuvent pour l'aggraver, pousser l'horreur à son comble. Nulle profession n'est plus dangereuse, criminelle même. Les architectes ont causé plus de malheur que tous les soldats, tous les idéologues et tous les industriels confondus.
Ouais, je vais m'attirer des ennuis avec la profession, donc je suis navré pour eux. Alors, un architecte est venu me voir et m'a dit qu'en réalité, ils y étaient pour rien. C'était les élus locaux qui voulaient absolument qu'on construise des choses laides. Je demande à voir.
Ou alors les urbanistes.
Oui, hein, et la plupart du
les
temps.
Les urbanistes ne valent pas mieux, d'ailleurs, ce sont souvent les mêmes. Ils s'en vantent et se proclament architectes urbanistes, comme on dirait violeurs assassins. On les pendra deux fois.
Voilà.
Vous n'y allez pas de main morte.
Non, mais il ne faut pas y aller de main morte si on veut que ça marche.
Cette disposition d'esprit chez vous de regarder le monde tel qu'il va mal, mais par le biais de l'absurde, de l'humour, ça vient d'où? C'est votre identité belge?
Bah peut-être, vous savez, on n'échappe pas à sa belgitude. Je crois à l'ADN littéraire et à l'idée qu'un écrivain belge, quoi qu'il fasse, finira par écrire des romans belges ou des nouvelles belges. Et bien que ne vivant pas moi-même en Belgique et n'y ayant en réalité guère vécu, je constate que je suis rattrapé par ma belgitude. Donc ça doit être ça.
Qu'est-ce que c'est que cette belgitude? Quel est son ADN?
Ah bah vous savez, c'est comme le jazz. Quand on a besoin de demander, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir. Mais bon, disons, un mélange de fatalisme, d'humour noir et de bonnes chopes de bière.
Et puis ici, bah vous appliquez en plus la devise de la Belgique, l'union fait la force.
Exactement.
C'est ce que vont vivre les habitants de
Mayerling. C'est tout à fait ça, oui, tout à fait. Ils vont s'unir pour venir à bout de celui qui leur a fait tant de mal, leur immeuble. L'union fait la force, oui, ce serait une belle devise que j'aurais pu mettre au frontispice du livre, ça aurait parfaitement marché.
Dans vos délires là, qui sont à l'intérieur de ce roman, qu'il s'agisse des malheurs qui arrivent aux résidents ou de ce qui se passe à l'intérieur, des dérèglements à l'intérieur de cet immeuble, quel est le passage, l'idée qui vous a le plus amusé en l'écrivant?
Je vous avoue que les aventures du pauvre monsieur Paul, qui est un amoureux du calme et du silence et qui pensait pouvoir vivre tranquillement dans son appartement et qui est, dès qu'il y a quelqu'un, l'immeuble est tellement mal insonorisé, dès qu'il y a quelqu'un qui lâche un crayon quelque part, ça résonne jusque chez lui dans des proportions hallucinantes, alors que bizarrement ça ne résonne pas ou pas autant chez les voisins, celui-là j'ai quand même une compassion particulière pour lui parce que je crois vraiment que le bruit est ce qui nous rend le plus fou. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand quelque chose est laid devant vous, vous pouvez toujours fermer les yeux et penser à autre chose. Quand il y a du bruit, c'est pas possible de fermer ses oreilles. Et donc vous êtes condamné à subir jusqu'aux petites heures du matin. Et là encore, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus souvent de massacres à la tronçonneuse dans les appartements et les immeubles où il y a excessivement de bruit en raison des voisins.
Des retours de lecture déjà, vous en avez évoqué un avec cet architecte là qui tentait de se défendre. Qu'est-ce qu'on vous dit, que vous disent vos premiers lecteurs et lectrices?
Dans l'ensemble, on me dit qu'on a ri, ce qui me fait toujours très plaisir. Et puis, on confirme mon sentiment, c'est-à-dire que généralement, ça se passe quand même pas aussi mal dans la vraie vie que ça se passe dans le roman. Je reconnais que j'ai peut-être un peu forcé la note.
Non.
Mais d'une manière générale, je constate que tous les lecteurs qui viennent m'en parler reconnaissent eux aussi haïr leurs voisins, au point parfois d'avoir des envies de meurtre. Et je me dis que du coup, même si j'ai moi l'impression d'avoir caricaturé un peu, j'ai peut-être touché quelque chose d'assez juste au fond.
Est-ce que vous diriez que vous êtes aussi une espèce de moraliste?
Alors le terme est peut-être un peu sans majuscule à ce moment-là, mais bon, oui, on peut le prendre comme ça. Toutes les satires, d'une certaine façon, sont habités par une logique de moraliste. C'est un regard sur le monde qui nous entoure, un regard humoristique, mais enfin un peu mélancolique quand même, parce que j'ai pas l'impression que les choses vont en s'arrangeant, et d'une façon générale, je ne trouve pas que nous soyons toujours sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que nous n'y sommes jamais, mais nous n'y sommes pas toujours. Et si on peut dire de ça que c'est un travail de moraliste, ça me va, je le prends comme un compliment.
Merci Bernard Quirini et l'affaire Meyerling chez Rivage. Ben, je vous laisse retourner dans votre immeuble.
Merci, dans ma grotte.
Tout va bien là.
Tout va bien dans ma grotte. Concerne. Parfaitement silencieuse, vous inquiétez pas.